Mephiston Red. Mephiston Red. Mephiston Red. Oh! Whoops!
Oh!
Yay!
Bienvenue au balado Soirée Peinture, épisode 90.
Vas-y.
On tient à remercier la bis, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, premier, je pense, David nous est-il de 2024?
Non.
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 On en a fait un en janvier. Un en janvier.
Ouais.
Au vrai?
Ouais.
C'est quoi?
Tell old world.
Ah, ok, bon. Pour moi, c'est comme une continuité de la même affaire.
Ah, voilà, voilà.
Okay. La même vieille affaire.
Oui, c'est ça. T'as marqué, les vieilles affaires, ça traîne plus. Hein? Bon, là, je savais à quoi vous pensez. C'est pas là que je m'en allais. Mais maintenant que je l'ai dit, moi aussi, j'y pense. C'est pas ça que je voulais dire. Donc, et voici pourquoi David est responsable de son propre segment. C'est pour pas que moi, je fasse ce genre de référence-là. Fait que David, deuxième épisode de 2024 de David nous éduque.
Ouais.
On est-tu prêt de film?
Ouais.
Éduque-nous.
D'accord.
Ça me manquait, ce petit bout-là.
Hein?
J'ai comme un petit frisson. Ouais.
J'ai comme un petit déjà vu.
Donc, parlant de déjà vu, tu nous parles du Old World.
Le vieux monde. Tu parles du vieux monde. Je parle des éléments narratifs qui viennent avec la nouvelle édition. Ben, en fait, le Old World qui est un
nouveau la jeu. La nouvelle édition qui est un nouveau jeu.
J'avais envie de vous parler de ça parce que d'un, ça nous intéresse beaucoup au podcast, le côté narratif. Puis, j'ai fini par avoir mon stock de Old World, fait que j'ai pu regarder dans le livre. Puis
ouais, c'est ce que j'avais dit, t'as eu le livre.
Oui, j'ai été agréablement surpris de voir le contenu parce que ce qui m'intéresse beaucoup depuis Age of Sigmar, depuis qui ont parlé de trois types de jeux, c'est d'aller voir cette section-là dans le livre pour voir de quoi ça ressemble. Puis souvent, dans les derniers livres, quand on en parlait, plus ça allait, plus je trouvais, puis entre autres avec 40 000, que le narratif, il commençait à être réduit à une page, à un paragraphe, où il donnait l'intention, où il donnait l'idée de c'était quoi le jeu narratif, mais il n'y avait comme pas vraiment d'explication. Puis là, tu tombais dans Crusade, qui peut être un bon support au narratif, mais comme on l'a déjà dit, c'est un système. Fait que tu peux aussi prendre Crusade et jouer pas narratif avec.
Ouais.
Il manquait quelque chose. Puis là, en ouvrant le livre de Old World, j'ai été agréablement surpris parce que c'est très différent. Fait que les trois types de jeux ne sont pas présentés comme avant. Il y a ce qu'ils appellent les batailles rangées. Ils décrivent ça comme des batailles entre deux armées équilibrées avec un minimum de préparation. Fait que ça ressemble au jeu égal.
Ça ressemble à du match play.
C'est ça. Les batailles de campagne qui sont reliées entre elles. Là, je les cite, là, soit en suivant une trame narrative ou simplement pour désigner le meilleur général. Fait que là, c'est
donc un tournoi.
Ben, c'est comme pas clair. Ça a l'air d'être. T'as l'air de pouvoir faire une campagne soit tournoi ou une campagne narrative. Ils disent les deux là, dans la section. Fait que c'est pas le jeu égal. Fait que c'est pas le jeu libre. Mais c'est pas le jeu narratif.
C'est excellent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le studio qui s'est dit comment est-ce qu'on peut rendre ça encore plus compliqué, les gens n'ont pas compris c'était quoi le jeu libre, donc on va créer un autre jeu.
Ben, mais en fait, je pense qu'il explique juste comment faire une série de parties reliées. Tu sais, t'as même t'as une photo de l'arborescence, le joueur 1 gagne, le joueur 2 gagne, comment tu crées une arborescence. Fait que c'est un système, puis vu que c'est un système, d'un certain côté, dans le fond, je pense que c'est honnête de dire que ça pourrait ça mettre une histoire. Ou tu pourrais pas en mettre.
Ouais. Bon, après ça sert à quoi de faire des parties reliées s'il n'y a pas d'histoire puis il n'y a pas de conséquences entre elles, sont juste reliées. Ça revient au même que de dire lundi, on joue 4 games. Mais bon, c'est moi. Je fais de mauvaise foi. Continue, David.
Et le troisième type de jeu, les batailles narratives. Fait que lui, il a gardé son nom. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que les batailles narratives, selon eux, intègrent souvent le jeu libre. Fait que là, le jeu libre, c'est plus une catégorie en soi. C'est comme mis dans le jeu narratif.
Est-ce qu'il explique c'est quoi le jeu libre?
Le jeu libre, c'est le type le plus simple de bataille narrative. Le jeu libre... comment ils disent déjà? C'est une philosophie des joueurs sur comment ils traitent les règles. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qu'on a de besoin, les règles sont une suggestion. Donc là, c'est plus une philosophie qui intègre au narratif.
C'est un esprit de jeu.
C'est ça.
C'est un esprit. Et là là.
Fait que les batailles narratives, c'est ça.
C'est intéressant.
Ben oui. Je trouve ça intéressant.
Ouais, parce que c'est pas comme ça qui est présenté dans aucun autre produit.
Non, c'est ça. Mais ils sont allés ailleurs.
Je suis curieux de voir si Age of Sigmar 4.0 va avoir cette définition-là, puis on va pouvoir dire « Old World a inspiré Age of Sigmar ».
C'est pas impossible. Mon feeling, c'est qu'on commence à voir une distinction entre... Hein, une distinction entre Age of Sigmar 40K qui ont l'air d'être leur grand jeu pour un public plus compétitif.
Ouais.
30K Old World qui ont l'air d'être leur jeu plus historique ou en tout cas qui est basé sur une histoire que tu essaies de reproduire.
Ouais, qui est comme un contexte historique dans lequel ça se
passe. C'est ça. Puis là, ils vont chercher deux marchés qui est peut-être un petit peu d'overlap, mais qui ne sont pas nécessairement pareils.
Puis, en même temps, c'est intéressant parce que les deux jeux, oui, ont un contexte historique, mais c'est aussi un jeu qui se joue en très grande quantité de modèles.
Oui. C'est vrai.
Lorus Hérésie, tes Tactical Squad, c'est 20 gars. Oh, ouais, tu peux bien te faire des squads de vétérans à 5 gars, là, mais pour vrai, Lorus Hérésie prend du sens quand tu joues à 3000, 4000, et ainsi de suite, quand tu joues avec plein de tanks à la table. Fait que c'est un jeu de bataille de masse à proprement dit. On n'essaie pas de te balancer une expérience de jeu à 2000 points. Puis, même chose pour Old World, des unités de zombies à 100, c'est encouragé.
Oui.
Ouais.
On n'essaie pas de dire, joue donc 15 squelettes, ça va être correct. Fac. Un autre côté encore très intéressant, deux philosophies de jeu qui se ressemblent. C'est vrai, ça a du sens.
Mais on pourrait être surpris par Age of Sigmar 4e édition, puis là, ils prennent la même route. Puis moi, ça m'a fait me poser la question aussi, est-ce que Jervis Johnson était sur le projet? C'est lui qui a designé ça comme ça, parce que ça ressemble quand même à sa philosophie.
Mm-hmm.
Ou, bonne nouvelle, il y a quelqu'un dans le studio, dans la nouvelle garde, qui est dans cette philosophie-là.
Si je peux me permettre une hypothèse.
Vas-y.
Beaucoup de choses dans le Old World, on en a déjà parlé tout le monde dehors de nos conversations en podcast, là, mais il y a beaucoup d'appels à la nostalgie. Quand tu parles avec des gens qui ont beaucoup joué à The Old World, oui, il y a les gens qui vont parler de leur tournoi, de leur partie préférée en tournoi, mais tu vas aussi entendre beaucoup parler de gens qui vont dire « Non, mais la campagne de... J'ai joué la campagne de Storm of Chaos. » J'ai joué la campagne, j'ai joué l'événement de Games Workshop à tel endroit, de telle affaire. J'ai un peu l'impression que c'est aussi leur façon à eux de pouvoir aller chercher cette nostalgie-là, de dire on va séparer nos thèmes de jeu pour pouvoir représenter quelle sorte d'événement ce qu'on peut te faire vivre. Donc comme ça, c'est facile de pouvoir rappeler encore une fois la nostalgie en disant il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Puis on ne prendra pas les mêmes termes qu'il y a dans les main jeux d'Age of Sigmar et de 40K, parce qu'on n'a pas envie d'utiliser les mêmes termes que dans les autres, parce que ce qu'on veut, c'est appeler à ta nostalgie et à ton unicité. Fait que je pense que c'est aussi très marketing comme décision de ne pas utiliser les mêmes termes que dans les autres jeux, parce que le but, c'est de te faire sentir comme partie prenante d'une expérience différente.
Ouais, de le détacher un peu des autres jeux.
Ouais.
Ça, c'est
mais, bon. Ben oui. Mais là, tu vois, moi, j'ai joué à la... celle avec les Lizardmen puis les Bretonniens, c'était laquelle, Phil? C'était-tu la quatrième ou la sixième?
Non, c'était la sixième.
La sixième,
ouais. Sixième ou septième.
J'ai joué à la sixième, mais ça fait longtemps, fait que j'ai absolument pas ce rapport-là, en tout cas, avec les événements, parce que j'ai pas vu ça passer à l'époque. Puis j'ai joué à la fin de la huitième où il y avait pas ça. Et pour moi, tu vois, moi, j'ai ouvert le livre, j'ai lu ça, puis c'était nouveau.
À la 8, t'avais eu Blood in the Badlands, qui était un système de campagne, mais c'était vraiment un système.
C'était un système, ouais.
C'était pas un événement qu'une campagne. Storm of Chaos a été le dernier, je pense, qui était un événement de masse.
Il y en avait eu un, je pense, entre-temps, mais qui avait comme pas vraiment marché. Là. Mais le vrai qu'il y avait eu un livre et tout, là.
Ouais.
Il y en a eu trois. Il y a eu Storm of... il y a eu Storm of Chaos, Blood in the Badlands, puis il y avait eu Albion au début, là. Qui avait été une campagne aussi. Avec un petit livre, des figurines.
Les plus vieux, t'as Grudge of Drung, Macbeth, vieille affaire, puis un autre. Il y en avait un autre, il me semble.
Ouais.
Sinon, c'était beaucoup des choses qui étaient proposées à travers les magasins. Tu sais, mettons, le Canada était comme géré en eux-mêmes. Les États-Unis étaient gérés en eux-mêmes. L'Europe était gérée en eux-mêmes. Je pense que les magasins avaient plus d'autonomie aussi. Mais bon, en tout cas, t'as une autre conversation pour un autre. mais t'avais eu... c'était pas Blood of Nagash. Sigmar's Blood. Qui était un livre de campagne avec des scénarios attachés ensemble, avec... il est un peu malheureusement passé sous le radar parce que, ben... C'est ça. Mais si tu jouais...
Oui, Sigmar's Blood, c'est vrai.
Ouais, mais ouais. Si tu jouais les livres Sigmar's Blood, si tu jouais les livres des End Times, ben c'est un peu comme ça qu'il le représentait, là.
Oui, c'est
genre,
vrai.
On t'enlève les pourcentages, on rajoute des spells, fait qu'on prend un aspect plus jeu libre. On change la composition des armées. On permet à Malus Darkblade d'être dans les loyalistes, mais à un moment donné, se revirer de bord et d'être un traître du côté des Dark Elves. tu sais, tous des scénarios qui étaient attachés ensemble, qui faisaient des conséquences sur les autres, qui racontaient une histoire, qui étaient dans un moment donné. Fait que tu sais, ça fit un peu avec ce que t'as en ce moment. Fait que... C'est ça. Il y a peut-être cet aspect-là de dire, si on le frame comme ça, on peut sortir des affaires qu'on maîtrise déjà plutôt bien en studio parce que nous, en tant que designer, on se rappelle de cette époque-là. C'est ça qu'on veut aller chercher. Fait qu'on peut le prendre et on peut le plugger ici. Puis si on veut runner des tournois, on peut. C'est comme ça que ça fonctionne.
Je pense que ce qui me rend confus, c'est que t'appelles ça de la nostalgie, là où moi, c'est plus « Hey, c'est ça que j'ai envie de jouer. » Mais pour moi, c'est pas un rappel au vieux, c'est plus
ouais.
C'est comme ça que je veux jouer.
Ben oui. Puis tu sais, pour moi, c'est pas une nostalgie parce que j'ai pas connu cette époque-là. Mais je l'entendais de la part des gens qui y ont joué par
contre. Oui.
Pour eux, ça l'était. Fait que c'est plus pour ça que je l'appelle comme ça. Mais pour moi, je veux dire, j'ai joué à Fantasy après que toi t'aies commencé à jouer à Fantasy. Fait que je suis plus nouveau que toi.
fait que les batailles narratives. Donc, il dit que c'est le type le plus simple d'une bataille narrative, c'est celle qui permet de recréer un événement historique. Autre point, au début, je pensais qu'il n'y avait pas de scénario match play, il n'y avait pas de scénario jeu égal. Mm-hmm. Mais dans le fond, les scénarios bataille rangée, quand ils te les présentent, ils te les associent tous à un moment de l'histoire.
Ah, OK.
Et tu sais, t'as un scénario de la tour, mais ils vont te dire... la tour solitaire qui est liée à une reconstitution historique, puis qu'ils décrivent la bataille, qu'un paragraphe pour décrire la bataille, puis un nom générique est commandement et contrôle. La bataille du col de Gisoreux, qui est une bataille de col de montagne. Tu sais qu'on s'était posé la question comment on fait pour amener les gens à jouer narratif. Ben, je trouve là, c'est brillant. C'est que même dans les scénarios égaux, tu as un scénario de bataille égale, mais ils te mettent autour une histoire qui a rapport avec ça. Fait que quelqu'un qui le lit pour le jouer en bataille égale, il peut voir à quoi ça pourrait ressembler comme scénario narratif.
Ouais. C'est vrai.
Fait que je trouvais ça super bonne idée. Je trouve que ça amène bien le concept. C'est ça. Dans la campagne, là, comme je disais, il y a deux pages d'explication sur l'arborescence et comment créer une ligue. Puis sinon, ce qui m'a vraiment intéressé, où il y a plus de pages, je trouve, c'est le narratif. Alors là, tu as la reconstitution historique. Puis là, il te réfère dedans, il dit « Allez voir les batailles rangées, on vous a mis un contexte. » Fait que tu peux réutiliser le même scénario, il y a le contexte.
Okay.
Il parle aussi de scénarios personnalisés. Donc, il dit « Tu peux prendre une partie de l'histoire et essayer de le refaire. » Ou toi, tu peux te créer une partie d'histoire, puis là, te faire un scénario personnalisé. Puis l'intérêt, c'est de te faire des règles qui vont te permettre de faire le scénario que tu veux. Fait que je trouve qu'ils vont plus loin dans l'explication que dans les derniers livres d'Age of Sigmar puis de 40K sur comment tu fais du narratif.
Tu veux dire la section des deux livres où est-ce qu'ils ne t'expliquent pas comment faire du narratif?
C'est ça.
Ils te disent comment jouer un système.
Oui.
C'est ça.
C'est la grande nouveauté de ce livre-là que j'adore, c'est ça. Ils essayent de t'introduire, ils essayent de t'amener à ça. Et ils te parlent tout de suite que dans les suppléments, ils vont te mettre des scénarios narratifs.
Ah ouais.
Fait que là, on a deux exemples. On a les journals. Les journals. Celui de Bretonnier, Ben, dedans, tu as la bataille de Matoria, si je me souviens bien du nom. Oui, Matoria. Qui a les forces. Dedans, tu vois les forces bretonniennes. Qui te dit comment faire la bataille, quoi mettre dessus. Donc, qui est une bataille historique. Tu as la carte, tu as une explication. Fait que déjà, il te prépare sur le fait que voici comment faire une bataille narrative. Je vais t'en mettre dans tes suppléments.
Ouais, moi même. Puis, c'est une belle place pour pouvoir le mettre aussi. Oui. Ton rulebook fait référence à quelque chose, mais ton codex, ou ton index, ou ton compendium, ou peu importe comment tu voudrais l'appeler, là, a une référence inclue dedans qui fit avec ce qu'il y a dans ton rulebook. Fait que c'est pas détaché. C'est une expérience commune.
Oui.
C'est vrai que c'est intéressant.
Il ramène en force le concept de maître de jeu. T'as toute une page où il te parle de comment introduire, quoi faire, puis mettre avoir un maître de jeu.
What?
Oui.
En 2024?
En 2024.
On ramène le maître de jeu?
On ramène le maître de jeu dans la section narrative pour vraiment comme... Il y a quelqu'un qui développe une histoire, qui le fait, puis qui t'amène là.
Bravo Games Workshop. Je l'ai pas vu venir. Je suis extrêmement heureux de ça. Puis, in your face, les gens qui pensent que ça fonctionne pas. Mais pour ceux et celles qui ont jamais essayé le système de maître de jeu, on en a déjà parlé là, dans d'autres épisodes. Puis, quand on avait parlé du Grand Clash, on avait expliqué que notre rôle était un rôle plus de maître de jeu pendant cet événement-là. Mais pour les fans de Old World ou les gens qui sont curieux à savoir comment fonctionne le système de maître de jeu, là, posez-nous la question. Mais sinon, si vous avez les livres de The Old World, allez voir dans les livres, je ne l'ai pas lu moi personnellement, mais je trouve ça cool qu'en 2024, il les ramène.
Oui. C'est
très nice. Okay. Écoute, tu m'apprends quelque chose que je suis. Je ne me serais pas attendu à ce que tu m'apprennes ça aujourd'hui.
Mais je savais que ça allait surprendre. Là. Je m'attendais à.
Non, mais il a surpris, puis. What the duck? Je pourrais dire what the F, mais je me suis dit, j'ai lâché assez de sacs aujourd'hui. Fait.
Dans la description qu'il donne, ça ressemble un peu. Il semble que j'en ai parlé dans un épisode il y a longtemps, le wargame français que j'ai retrouvé sur gallica.fr du 19e siècle, qui était fait pour l'armée, mais où tu avais deux rôles. Tu avais le rôle d'arbitre, puis tu avais le rôle de celui qui interprète l'esprit du jeu. Mais là, ils te le définissent dans le maître de jeu. Ouais. Fait que c'est quoi son rôle? C'est un observateur neutre, mais c'est aussi un narrateur et un conteur. C'est un arbitre des règles. C'est le troisième joueur impartial. C'est le représentant du destin.
Fait que c'est vraiment sensiblement ce qu'un maître de donjon fait à Donjon Dragon.
Exact. Ouais. On vient aux racines.
Ouais. On vient pas mal à ce qui existe dans le roleplay. Où est-ce que le but, c'est de faire vivre une belle expérience aux autres? C'est pas toi, t'es neutre. Bon, t'aimerais ça avoir du fun toi aussi, là, mais... Des fois, tes joueurs ne savent pas qu'est-ce que tu leur demandes, par exemple.
Ouais, puis là, c'est là qu'un Purple Sun qui débarque.
C'est là que Seb me dit, Kevin, ça serait le fun que tu lances d'autres spells que Purple Sun, tu sais. Je sais, oui, mais il y en a rien qu'un qui vaut vraiment la peine, puis c'est lui. OK, cool. Je m'excuse, David, je suis encore dans le sujet. As-tu un Space Marine sur ton tank en arrière de toi?
Oui. On n'a pas fait de tour de table, c'était comme un...
On fait un petit... Non, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui ont la capacité de pouvoir regarder à travers la vidéo en ce moment, vous allez comprendre ce que je demande. Nice. Il manque pas de lame.
Ah, t'as cassé son épée?
C'est, toutes les épées ont cassé.
Ouais, c'est ça. Oh, mais il est malade.
Ouais,
très, c'est... très, très beau. Dans le fond, en ce moment, David nous montre à travers la paume de sa main pour pouvoir faire un background d'écran. Son Space Marine qu'il a peint pendant le cours avec Miles de
Legends of
Studios. C'était ta première fois à tester un color scheme de Thousand Suns, right?
Oui. Puis là, j'essayais, vu qu'on n'avait pas d'aérographe pour ce cours-là, j'essayais un schéma au pinceau. Je reparlerai au prochain tour de
temps. Très, très beau. Ben, c'est ça. Puis là, ben, moi, je ne pouvais plus m'empêcher parce que là, j'arrête pas de regarder son écran puis je vois un Christy Space Marine qui a l'air d'être une autre couleur. Sur un tank bleu, fait que je suis comme, OK, là, faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe, parce que là...
T'es fait exprès.
OK. Tu sais, je gère bien mon TDAH, mais il y a des petites limites à un moment donné.
J'avais même préparé un autre truc pour le tour de table.
Non! Ah, tu vois, ça a plané en dehors, puis c'était un avion qui vient de passer dans l'écran en ce moment, un avion de Deuxième Guerre mondiale, habillé en léopard.
Oui, exactement.
Je pense que David s'est développé depuis qu'il est allé à l'Otakuton.
Oui.
Il fait partie des groupes des Furies maintenant. Ces avions font des Furies. J'allais faire un jeu de mots avec Fury of the Dark Skies, puis là, des scénarios de Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas...
Parlais-tu du The Old World, là?
Ouais, c'est ça.
Ouais. J'ai pas fini de te surprendre avec The Old World, là.
OK, vas-y.
Est-ce que c'est pas fini?
Parce que toi, tu le frappais à coup de pelle dans l'autre épisode, mais lui, il va te frapper à coup de livre.
Exactement. Toujours dans la section narrative, on a parlé des MJ, les maîtres de jeu.
On reste juste là.
Il y a une autre page sur forger un récit.
Ah, nice.
C'est central quand tu veux faire du narratif. Il faut que ça parte d'une histoire. Comment tu crées cette histoire-là? Puis là, tu as deux tableaux super intéressants. Les lieux narratifs. Les amorces narratives.
Ouais, logique.
Tu sais, quand tu veux faire une bataille narrative, dans le fond, une des premières questions moi, que je me pose, c'est pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi qu'on veut raconter?
Où, quand, quoi, qui?
Exact.
Si tu peux répondre à ça... T'as une solide base. Sinon, qu'est-ce qu'on fait?
C'est ça qui distingue le fait que ben, je collectionne une armée, tu collectionnes une armée, on se fait un après-midi où on joue une game, donc c'est une pick-up game, puis on a du plaisir, fait une game narrative, parce que là, on s'est posé la question, comme tu as dit, où, quoi, quand, qui, ouais, qui fait les comptes, là.
Endor, âge de la rébellion, attaque d'une base impériale.
Hey. C'est les règles de l'impro. Où, quand, quoi, qui. Si je peux faire ça, je peux te raconter une histoire. S'il manque une de ces quatre affaires-là, il y a un trou dans l'histoire, puis ça va se sentir, ça va se voir. Puis c'est la seule chose que moi, je vais me rappeler à la fin de ton improvisation, c'est « Mais t'étais qui? Pourquoi t'étais là? Tu faisais quoi? Où est-ce que vous êtes? » Tout ça, ça bug dans une histoire quand tu le sais pas. C'est important de répondre à ces quatre facteurs-là. Fait, voilà.
Et je vais vous donner un exemple. Lieu narratif. Là, tu peux le lancer sur un D6. Là, il y en a 6. Là. C'est correct. Je pense que c'est pour aider. Tu sais. Repère de montagne.
On leur donne notre permission. Ils peuvent utiliser les tables. Scott.
Repère de montagne. Le champ de bataille devrait être long et étroit avec au moins deux bords traités comme du terrain infranchissable. Le reste du champ de bataille peut être parsemé de rochers en guise de terrain difficile et de terrain dangereux. Si le sol est escarpé, le champ de bataille entier pourrait compter comme étant en pente, donnant un avantage au camp qui le contrôle.
Logique.
Là, on va prendre une amorce narrative. Tiens, nulle part où aller. Nombre de derniers carrés désespérés sont entrés dans la légende. Sur la table de jeu, une armée pourrait se trouver coupée de toute retraite, contrainte de se déployer sur la berge d'un fleuve impétueux ou au pied d'une falaise où elle doit se battre à mort. Sinon, elle pourrait aussi se déployer au centre du champ de bataille, cerné de tous côtés par l'ennemi.
C'est comme ça que j'imagine mes nains, moi.
Hein?
Ouais. En plein milieu d'une table, cerné, pieuté jusqu'au dernier. Par des elfes, si possible.
Et là, je vous ai lu ce qu'il y avait dans le tableau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux oreilles?
C'est en français?
Oui. Bon, ouais.
T'as eu ton livre en français.
Je sais pas si c'est ça que tu voulais que je remarque ou si c'était pas... En tout cas, on va voir, là. Mais moi, ce que je remarque et qui me frappe en premier, c'est qu'il te propose un lieu. Fait que tu choisis, mettons, un flanc de montagne, whatever. Puis il te propose comment est-ce que tu peux représenter ça sur ta table. Donc, qu'est-ce que c'est censé faire? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Qu'est-ce que tu es censé mettre sur ta table? Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas coachés à faire. Bon, encore moins aujourd'hui avec le MDF. Là. Je suis vraiment désolé. Là, encore une fois, ça va être un autre moment où est-ce que je dis que c'est du niaisage. Mais ça raconte rien. Fait que ça inspire rien. Mais si tu joues une game, puis tu prends des photos ou tu veux raconter avec des gens une histoire, la table doit raconter une histoire. Si on joue dans des usines, ben, il faudrait que les terrains représentent l'usine dans laquelle est-ce qu'on est. Fait que beaucoup des commentaires qu'on va recevoir quand on va poster les photos de nos batailles, souvent les gens vont dire « Ah mon Dieu, la table est vraiment belle, bravo, c'est vraiment cool, je vois ce que vous vouliez faire. » Ben, on voit ce qu'on voulait faire parce qu'on savait ce qu'on voulait raconter. Fait qu'on a pris des terrains en conséquence. Mais là, le livre, t'as le coach, qui n'est plus le cas depuis vraiment longtemps dans les jeux de Age of Sigmar ou de 40K, malheureusement. C'est un peu comme si on avait oublié qu'il y a des gens qui en arrivent à leur première expérience puis qui auraient besoin de se faire dire comme voici comment raconter une histoire sur la table.
Oui. Puis là, avant
d'aller. C'est ça que tu voulais que je remarque.
Ben, tu vas partir de ton idée parce que ça part de là. Mais juste un petit disclaimer avant, quand tu dis les décors MDF, on parle de décors qui ont une fonction purement utilitaire de bloquer la ligne de vue. Parce que sinon, il y a des compagnies qui font en MDF des beaux décors.
Les décors en MDF dans lesquels il y a un effort et qui représentent quelque chose d'intéressant, je suis d'accord, j'adore ça, j'en ai, t'en as, tout le monde en a. C'est chill. Les décors qui servent à être des bâtons de popsicle qui bloquent la vue, ça, c'est non. Pour moi. J'ai l'impression que je suis vraiment plus acerbe que d'habitude dans cet
épisode. Qu'est-ce qui se passe?
Dans l'autre d'avant. Je sais pas. J'ai décidé de lâcher prise et de dire hey, écoute, aime-moi pas. Ça va être ça.
Mais ce que tu as dit, parce que l'idée est super bonne, puis ça fait partie de ce que je voulais que tu sois remarqué, effectivement, de coacher les gens à raconter une histoire. Mais
là, c'est peut-être un hot take. J'ai eu raison.
Je vais peut-être générer des réactions.
Continuer à parler,
il n'a pas arrêté. Je sais, il n'a pas arrêté. Moi, j'avais juste à partir qui disait que j'avais raison, là.
Kevin avait raison, tiens.
Yes! Pour ceux et celles qui ne savaient pas, je ne l'ai pas entendu souvent, fait que ça fait vraiment bien. Continue.
Et là, je vais faire un hot take qui va peut-être, ou pas, générer des réactions.
Oh, j'ai hâte.
Dans ce que je vous ai lu, coach, comme disait Kevin, les gens à trouver, à faire sa table, mais aussi à trouver l'amorce narrative du pourquoi ils sont là. Mais il n'y a
en français
pas de règles. C'est pas si tu joues à telle place, t'as plus un ici, moins un là, t'as un bonus de ou t'as un bonus de ça. Il n'y en a pas.
OK, mais ça, je l'ai même pas remarqué parce que
c'était. Pour moi, c'est important. Je comprends que ça peut être bizarre, puis c'est peut-être pas bon pour faire de l'argent. Mais c'est parce que ça, la règle, selon moi, distrairait les gens du but de les coacher à faire une belle table. Ils focuseraient sur le plus un, moins un, plutôt que sur. L'idée, c'est, hey, fais une table qui est dans un gouffre d'une montagne.
Ben, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, j'ai pas besoin que tu me donnes une règle si mon but, c'est de raconter une histoire. Si on joue le scénario narratif de 300, c'est tout le temps l'exemple que j'utilise. Mais si on prend les 300 guerriers spartiates, là, j'ai-tu besoin que tu me donnes une règle spéciale pour pouvoir dire que je suis 300 guerriers spartiates et qu'on est en désavantage? On est en désavantage. C'est ça le but de l'histoire. Merci. On a compris ça. La table, j'ai pas besoin qu'elle me donne un avantage avec une stat. Je peux choisir de me battre dans le... Je pense que je m'avais bien, il y avait comme une espèce de flanc de falaise qui pouvait se battre comme pour faire une espèce de, d'entonnoir.
D'entonnoir.
Ouais. Ben, c'est d'utiliser le terrain. C'est pas obligé d'être une règle. Le feature, le terrain, il existe. Le terrain en soi fait en sorte que ça change la disposition des forces. Ce qui fait en sorte que tu gagnes un avantage, mais il n'est pas sur papier, il est dans la façon dont tu le joues sur la table. Ça m'amène à mon deuxième point.
Dans l'histoire que tu racontes.
Oui. Ça m'amène à mon deuxième point. C'est que, si je me rappelle bien, dans The Old World, il y a des avantages et des désavantages à pouvoir jouer sur certains flancs de montagne, à être surélevé ou pas, à être sur un flanc ou pas. Il y a beaucoup de choses qui se jouent comme dans le jeu, dans la règle. Fait que, par exemple, tu sais, quand il disait... le flanc, ça peut être mis en flanc de montagne.
Oui.
Puis c'est contrôlé par la personne qui est en flanc de montagne. Si ma mémoire est bonne, après avoir lu une couple de règles en ligne, quand tu es en hauteur, tu as un avantage sur la personne qui ne l'est pas. Parce que tu défends un flanc. Tu défends une position montée. C'est l'équivalent d'Obi-Wan Kenobi qui dit I have the high ground. Don't do this, Anakin. Fait que. Ils ne te mettent pas une règle pour te donner un bonus, mais parce que comme que tu te déploierais probablement en flanc montant, tu aurais un bonus inhérent à ta position de déploiement parce que tu serais surélevé à ce moment-là. Je n'ai pas besoin que tu me donnes un bonus. Ma position me donne un bonus. Au même principe que pour les 300 avec l'entonnoir, ma position de combat actuelle me donne un avantage sur toi parce que tu vas avoir deux ou trois guerriers qui vont se battre pour les 6 pieds. Je donne un exemple. Est-ce que ça a du sens ce que je dis, David?
Oui, ou
est-ce que
je suis loin de... Okay. Non, c'est parfait, oui.
OK. Ça va. Je suis comme surpris qu'il n'y ait rien d'autre à dire là-dessus.
Mais, et donc, le point, je pense, c'est vraiment pour coacher les gens, comme tu disais.
Ouais.
Les amener à développer une histoire, puis c'est ce qu'il n'y avait pas dans les autres livres quand on parlait de jeu narratif.
Ben, ils ont arrêté de faire ça, si je me rappelle bien, depuis la 7e. Le livre de règles, la 6e édition, puis la 7e édition avait des règles avec un chapitre. Tu te rappelles? 6e édition, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. 6e édition, tu avais 3 livres de règles.
6e édition de
40K.
40K.
Livre de règles, livre d'images, livre de lore. Et dans le livre de règles, dans la partie où est-ce qu'on parle plus de narratif, de campagne, il t'expliquait dedans ça représente quoi le jeu narratif.
OK.
Il y avait cet esprit-là, si ma mémoire est bonne, de te coacher à c'est censé représenter quoi? Fait qu'on t'enseigne l'esprit. Est-ce qu'il te tenait par la main autant que, par exemple, de dire « Non, non, mais voici comment on prépare la table. Voici comment est-ce qu'on fait des choix. » Ça, non. Et ça, c'est, je dois avouer, la plus grande lacune des jeux très plus récents de Games Workshop. C'est, on prend pour acquis que tout le monde joue de la même façon.
Mm.
Là, je vais te proposer un mode alternatif de pouvoir jouer, mais je vais y donner beaucoup moins d'attention dans l'explication que pour le jeu que je sais que tout le monde joue. Ou que je pense que tout le monde joue. Alors que c'est celui-là qui mérite le plus d'explications. Comme, c'est celui-là qui a le plus de nuances. C'est celui-là qui demande le plus d'exemples. C'est celui-là qui demande le plus de coaching. Mais c'est celui-là dans lequel est-ce qu'on donne le moins d'attention. Puis après ça, ben, il va avoir la place où ce que les gens disent « Ouais, j'aimerais ça jouer narratif, mais j'ai personne autour de moi qui le fait parce qu'on comprend pas. On sait pas pourquoi. Personne joue à ça autour de moi. » Et l'aspect inverse, ouais, j'aimerais ça jouer à Crusade, mais j'ai un de mes amis qui l'a fait, puis pour vrai, il exagère, là, ça n'a aucun sens. Là. Genre, il nous roule dessus tout le temps, puis à un moment, c'est plate, là, fait qu'on a commencé à jouer matchplay parce qu'on était tanné de se faire rouler dessus. Puis t'es comme, OK, fait que là, il y a un douche qui a décidé d'utiliser des règles pour te rouler dessus, mais ça, c'est pas la faute du jeu narratif, c'est parce que ton ami, pas un bon ami. Non, mais tu sais, des erreurs de jugement, on en a toutes faites, mais tout ça pour dire que la partie qui nécessiterait du coaching, ça serait aussi ça.
Oui.
C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Fait que tant mieux si l'Old World l'avait fait. Surtout pour un jeu de bataille rangée où est-ce que c'est facile de le voir juste comme étant des blocs qui se rentrent dedans. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant qu'il y ait mis un effort comme ça là-dedans.
Oui.
C'est cool.
Finalement, dans la section narrative, il y a une série de 3 scénarios. L'histoire, c'est le monolithe noir. Puis là, ils introduisent des batailles qui suivent avec un effet les unes sur les autres selon les pertes.
C'est très cool.
Fait que si ton unité a été détruite, ça se peut qu'elle ne se présente pas à la prochaine bataille. Si elle a eu tant de pertes, tu lances un des 6 ou un des 3 selon la grosseur d'unité et la puissance d'unité.
Très cool.
Pour qu'il y ait un effet et l'attrition au fur et à mesure. Fait que le livre de base, contenu narratif, je suis super content. Ouais. On a parlé du journal avec qui vient avec une bataille narrative. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la bataille narrative est faite pour être jouée avec la boîte des Bretonniens. Dans la boîte des Bretonniens, j'imagine que c'est la même chose pour les Rois des Tombes, le petit livret qui vient avec. Tu as une armée toute faite qui a un nom. Ici, c'est l'armée du duc Gassé, la main rouge. C'est qui est nommé, il t'explique un peu, c'est pas long, là, mais c'est qui, c'est quoi l'armée, en 2 paragraphes. T'as, l'armée est toute faite, mais tu sais, t'as un héros, Gassé, la main rouge, qui est le duc, puis toutes les unités sont nommées.
Ouais, ben c'est un peu l'équivalent de qu'est-ce que t'avais, mettons, dans 6e édition, 7e édition de 40K, où est-ce que t'avais, ça c'est l'armée de Balthazar, le Dark Angel, qui court après les Crimson Slaughter, telle affaire, ça c'est le nom de l'unité, ça c'est le nom du personnage, ça c'est le paragraphe qui le représente.
Oui.
Ça c'est cool ça.
Puis, la bataille de Matoria, qui est la bataille du journal narrative, utilise l'armée de Gastille.
Ah ouais!
Et une autre armée de Bretonniers. Là, je suis en train de mélanger les deux.
Donc, mesdames et messieurs, si vous écoutez cet épisode, que vous dites c'est bien mélangeant,
okay.
C'est correct.
Si je me trompe pas, et là, je pense que je vais faire une erreur. Là, je cherche l'information sur la page, puis je la vois pas.
Mais donne les deux options, puis au pire, on va dire aux gens, si vous découvrez que David s'est trompé, faites juste échanger deux informations. Ça va être correct.
Ouais. OK, je pense que j'allais me tromper. Dans le fond, fait que la bataille permet d'utiliser le contenu de la boîte, mais ils disent pas que c'est Gastille, la main rouge, qui vient. Je pensais que c'était ça qu'ils disaient.
OK.
Mais la force principale, c'est des exilés bretonniens, Bretonian Exile, oui. Que tu as les règles là-dedans, avec un héros nommé Cécile Gaston de Wyrmslayer. Fait que tu as un héros narratif qui va être inclus avec là. Mais lui, on n'a pas vu de figurine pour lui. Par contre, il y a l'héroïne Lady Élise Duchard, qui est une...
Est-ce qu'elle vient sur une corvette?
Elle vient sur...
C'est Élise Duchard. Moi, ouais. Je m'attends à ce qu'elle vient avec un auto. Là.
Non, c'est une licorne.
Ah! Oh, ben, elle vient sur un Ford.
Ça, c'est un modèle correct, Ford. Ouais.
Elle vient sur un Ford. Voyons, David! C'était la première à utiliser l'unité de cheval pour représenter la force de son moteur. Voyons!
Mais ça, c'est le modèle Forgewell qu'ils ont annoncé l'été dernier, qu'on ne sait pas quand il va sortir.
Ah, ça devrait s'en venir bientôt, là. Je peux pas croire. Là.
Fait qu'elle aussi, on a ses règles, on a son histoire dedans.
OK.
Fait qu'encore une fois, bataille narrative, héros narratif. Il y en a un qu'on a priori, on ne sait pas s'il va avoir une figurine, l'autre qui va avoir une figurine. Là, tu peux, c'est pas précisé, mais tu peux mixer ça avec Gastille, la main rouge, qui vient faire la force pour aider.
Est-ce que Gastille, la main rouge, c'est le cousin du Red Duke?
C'est-tu le Red Duke? Ça doit être en anglais, non?
Oh, t'es en train de te faire troller.
Le Red Duke, c'est un baron vampire.
Ah!
Qui était un bretonnier avant.
Ah! Peut-être que ça vient de là. Peut-être!
Je fais juste lancer des affaires. Ah, mais c'est cool, David. C'était tout?
C'est tout. Du narratif, okay. Dans tous les livres. J'adore.
Ben, honnêtement, tu m'intrigues. C'est cool qu'elle ait mis ça là-dedans. Moi, tu vois, ce qui me questionne, c'est ça. Je le prends, je le mets dans tous les autres rulebooks de tous les autres jeux. Je suis sûr et certain que c'est pas propre au Old World, parce que dans le fond, ils sont en train de t'enseigner un esprit de jeu,
oui.
Une approche. Fait que tu peux l'appliquer dans Necromunda, tu peux l'appliquer dans Kill Team, tu peux l'appliquer dans Blood Bowl, tu peux l'appliquer dans Warcry, tu peux l'appliquer dans... Fait que j'aurais tendance à juste prendre ça puis le mettre sur notre page.
Ben oui.
Bonjour, est-ce que vous cherchez comment... Oui, voilà. Il y a un document PDF en haut là, qui est piné, là. Voilà. Tu vas en apprendre plus sur le jeu narratif, voilà. Ouais, ça vient de Old World, ça vient de ce que tu veux. Voilà. Voilà. Fait que David a parlé. Hey, mais c'était vraiment cool. Nice. Merci.
Ben, ça fait plaisir.
Bon, fait qu'on a été éduqués, là, Phil.
Ben, me coucher, moi.
Tu l'as brûlé, David, tu l'as brûlé. Fait qu'il y aurait juste une chose à vous dire. On a terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas. Balado. On a soirée peinture, le balado, qui est le groupe Facebook. On a soirée.peinture, qui est l'Instagram. Soirée peinture, la communauté, qui est le Facebook, le groupe qu'on utilise. On a aussi des épisodes qui sortent régulièrement, à peu près à chaque semaine, sur Spotify, sur Balado Québec. On a aussi la chaîne YouTube. Qui a maintenant, là, je ne me rappelle pas exactement, c'est Soirée Peinture sur YouTube. C'est quoi déjà? Je ne me rappelle pas.
Soirée Peinture sur YouTube, oui.
Soirée Peinture sur YouTube. On est bien content de faire ces épisodes-là. Vous pouvez voir le bordel de projet qui me reste en arrière de moi, qu'il faut que je travaille dessus. Vous pouvez voir une île géante qui est juste là. Et vous pouvez voir David qui traîne un livre d'Horus Heresy juste à côté d'un jeu que je ne me rappelle pas le nom. C'est Gurkamorka, ça? C'est quoi?
Non, c'est les Imperial Space Marines.
Ah, c'est les Imperial Space Marines. Et voilà. Fait qu'on a du très vieux stock, avec du nouveau vieux stock, avec le Old World, avec Gurkamorka, avec tout. Tout est là. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'hésitez pas à nous mettre vos critiques, vos suggestions. On prend toujours ce que vous avez à dire. Fait que voilà, on a pas mal terminé. Fait que il reste juste une chose à dire, David.
La main rouge.
Phil?
Meta Watch.
Soir et peinture. Il fallait que tu fasses le balancier entre jeu narratif et Meta Watch. Hein? T'avais comme pas le choix. Là. Comme, je vais vous parler de l'affaire qu'on aime pas.
Ben, je voulais dire. Mais je voulais dire. Mais David, il m'a volé mon cue. Je voulais dire.
Ah,
main
rouge.
Ah, là,
ok! C'est pour
il est responsable de son propre malheur.